Les Toqués, France Bleu Vaucluse, on cuisine ensemble.
Oui, vraiment ensemble, avec vous, avec des gens qui connaissent bien la cuisine, qui ont peut-être des choses, sûrement même, à vous apporter au quotidien. Alors j'ai trois invités aujourd'hui, Henri Capella, Nadia Samut, et également Monsieur Reboul, Olivier Reboul, producteur de safran à Puy-Sainte-Réparade. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses hein, à partager ensemble. Si vous pensez safran, vous avez des questions à poser à propos du safran de Provence, de ce qu'on peut en faire en cuisine, c'est le moment. 04 90 14 04 04. Si vous aimez la cuisine sans gluten, par obligation, par curiosité aussi, Nadia Samut va répondre à vos questions puisqu'elle a décidé de travailler la cuisine avec sans gluten, avec notamment de la farine de riz d'ici, hein, on verra ça dans quelques instants, et Henri Capella qui est avec nous, il conseille pas mal de cuisiniers, il est curieux de cuisine lui-même, il fait de très belles photos, on peut les voir sur votre blog, Henri Capella. Hein.
Je déteste le mot blog, mais on peut les voir sur mon site, ouais. Sans problème, et on peut surtout les voir sur ma Facebook. Page Facebook, Henri Capella, et vous voyez tout le reste.
D'accord, allez, on parle cuisine ensemble.
Les Toqués, 04 90 14 04 04.
Henri Capella, alors, vous êtes ce qu'on appelle, je sais pas, un conseiller en cuisine. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, pourquoi des chefs font appel à vous? Parce que vous avez bon goût d'abord, vous êtes
parce
curieux.
Ils font le bon choix, je pense.
Ouais, déjà, c'est la bonne réponse.
Non, j'ai deux activités. J'ai une activité de chronique gastronomique. Donc, mon métier, c'est d'aller découvrir des tables, des restaurants, des artisans, des producteurs comme Olivier, et de les mettre en avant. Mmh. Pour les mettre en avant, il faut d'abord goûter les choses, tester les choses, et quelque part, tomber amoureux. Ce qui a été, je rassure Olivier, c'était une belle rencontre. Pour parler des gens, on a besoin de les aimer. En tout cas, j'ai besoin de les aimer.
Oui,
et avec la Feunière, ça a été la même chose. Ça fait 20 ans que je connais la Feunière. Je connaissais la grand-mère, je connais René Guy, je connais Nadia depuis longtemps. Et j'ai passé de longs moments là-bas. Et ensuite, c'est tellement plus facile d'en parler à travers des textes. Mais aussi, surtout, à travers la photo. La photo, ça triche pas.
Ah oui, puis ça donne envie.
Ça donne envie.
Bah, il faut être bon pour ça. Hein. Elles sont belles, vos photos. Moi, je vous le dis, ça donne envie. Ça, c'est très, très important. Alors, la Feunière, c'est une histoire de famille. Vous avez choisi, dans cette histoire de famille, de nous présenter la petite fille, Nadia Samut, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, Nadia, c'est pas trop... Enfin, la question est peut-être un peu simpliste, mais c'est pas trop lourd, non, de succéder à votre maman, notamment, qui a une belle image dans la cuisine, qui... représente bien notre région culinaire.
Je pense que ce serait lourd, effectivement, si je faisais exactement la même chose. Ça n'est pas le cas. On m'a laissé m'exprimer dans ce métier-là, et en tout cas dans le plaisir du goût, et avec un projet qui m'est complètement propre et que j'ai créé de toutes pièces. Donc,
qu'est-ce que c'est ça, ce projet alors?
Alors, pour commencer, je suis effectivement issue de cette famille de gastronomes épicuriens que sont mes parents et avant ma grand-mère. Et effectivement, j'arrive sur la troisième lignée comme ça avec un projet. Je suis intolérante au gluten depuis la naissance, malade cœliaque. Et vivre dans une famille d'épicuriens avec cette problématique, c'est vivre sans quelque chose. Et j'ai décidé de ne pas vivre sans, mais de vivre libre. C'est-à-dire, mon projet s'appelle La Cuisine Libre, d'ailleurs, qui a pour but de valoriser le plaisir de manger et d'aller beaucoup plus loin dans le référentiel de l'exploration culinaire. Alors, donc, je suis une exploratrice.
Exploratrice. Donc là, on va découvrir plein de choses avec vous. Et quand vous parlez de projet, de quoi s'agit-il exactement, alors?
Il y a quelques années, il y a 5 ans, je sortais d'une problématique de santé assez importante et j'ai décidé de créer un projet qui allait d'abord, qui était une association loi 1901 traditionnelle qui s'appelle With Love Allergen Free, qui est toujours existante, donc avec amour sans allergène, et qui véhiculait l'importance du plaisir de manger à travers le monde et qui créait des événements culinaires qui rassemblaient autour de la table, parce que pour moi l'important c'est le rassemblement autour de la table, l'envie de partager, de cuisiner quelque chose et d'échanger au travers de tout ça, ce qui était mon éducation.
Alors Nadia Samut, elle est venue avec on appelle ça, vous avez appelé ça très joliment comme dans l'univers du parfum, un orga à quoi,
la farine. Vérité c'est que j'ai fait des études de nez dans le parfum en plus.
Ah d'accord, en plus. Et donc, alors c'est une dimension géniale ça pour la cuisine.
Et j'ai fait chimie surtout à la fac. Mais,
ça aussi en cuisine c'est important d'ailleurs.
Mais aujourd'hui c'est complètement ouais. La description de ma cuisine, c'est que je suis rentrée en cuisine aux côtés de ma maman après avoir travaillé bien sûr et fait disons mes prouesses à ailleurs dans mes projets culinaires, parce que j'accompagnais par exemple Eric Kaiser dans sa boulangerie en lui apportant le pain sans gluten.
Sacré nom, ouais.
Voilà, j'ai travaillé pour la création du restaurant à Paris qui s'appelle Noglu, qui est le premier restaurant sans gluten, mais pour tous. Voilà, moi je ne valorise pas la cuisine sans gluten avec une pancarte, mais mon intérêt c'est surtout de créer une expérience culinaire bonne pour tous.
Mais alors cette expérience, on la vit comment ? On la vit à la Fenière ?
On la vit à la Fenière, ouais. On la vit d'abord à l'Auberge La Fenière, qui est une cuisine maintenant de mon collectif, c'est-à-dire mes collaborateurs et de ma mère qui nous guide et qui nous accompagne dans tout ça.
Mais c'est à part la cuisine de votre maman ?
Non, pas du tout. On est complètement dans nos deux établissements, le bistrot, la cour de ferme et l'Auberge La Fenière, restaurant étoilé. On travaille complètement sans gluten. Travailler sans gluten, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas avoir de traces dans la cuisine parce que c'est volatile et je ne pouvais pas cuisiner dans une cuisine comme ça. Donc on a tout enlevé pour que je puisse enfin venir cuisiner aux côtés de ma mère.
Eh ben dites donc, ouais, ça en fait des choses à découvrir avec vous, ça c'est sûr. Puisque c'est pas facile, hein, finalement, cette contrainte du sans gluten, c'est vraiment pas évident pour tout ce qui est pâtes et autres.
En fait, c'est très, très facile quand on se met la tête dedans. Mais quand en plus on travaille dans la gastronomie, un chef travaille toujours des produits d'ici et d'ailleurs et essaye de les sublimer ou d'innover. Et c'est notre cas. Donc je suis arrivée avec mon panier de farine, comme je dis, enfin mon orgue à farine. Et j'ai commencé à créer mes mélanges et comprendre l'intérêt de chacune d'elles. Par exemple, la farine de riz que j'ai ramenée aujourd'hui, c'est une farine qui va être très sableuse, très minérale. Et donc, on se rend compte que la farine de riz, elle va pouvoir apporter du croustillant, elle va pouvoir être travaillée sur une tempura. J'ai créé le Paris Lourmarin, qui est le Paris-Brest revisité à ma façon.
Vous faites craquer.
Qui est mon dessert signature à l'Auberge La Fenière. Mais voilà, c'est juste une question de passion, quoi. En fait, mon projet s'appelle Cuisine Libre, parce que c'est libérer des contraintes pour libérer sa créativité.
Ce qui demande énormément de travail, de curiosité de votre part.
Voilà.
Donc de nouvelles perspectives en cuisine, peut-être. Bon, on parlera safran aussi dans quelques instants. Si vous avez des questions à poser à notre invitée Nadia Samut sur les farines, à travailler dans la cuisine sans gluten, vous n'hésitez pas, 04 90 14 04 04. Vous nous donnerez peut-être une recette, sûrement même, je vais vous le demander, une recette facile.
Avec plaisir.
Hein, avec des produits de saison. Et puis on découvrira aussi Olivier. Olivier qui est venu avec nous aujourd'hui, nous présenter son safran. Olivier Reboul qui travaille à Puissante Réparade. Depuis combien de temps maintenant, votre culture du safran, Olivier ?
Depuis 2010.
Depuis 2010. Alors, on racontera la rencontre entre Henri Capella et Olivier, et on parlera du produit, le safran, justement. Dans quelques instants, on se retrouve dans quelques secondes.
Pour les juilletistes ou les aoussiens, le matin, 7h20, on prend les routes du Vaucluse. Bernard Sorbier nous conte les histoires et la vie de nos communes, avec la gouaille et l'accent qui chante. Les routes du Vaucluse en version provençale. À réécouter sur francebleu.fr.
France Bleu Vaucluse, partenaire du Marathon des Côtes-du-Rhône. Le 23 octobre prochain, participez au premier Marathon des Côtes-du-Rhône en solo, en duo ou par équipe de 4. 42 km d'effort au cœur de notre territoire, sur les routes de notre patrimoine culturel et gastronomique. Le temps d'un week-end au cœur de notre vignoble pour fouler la route touristique des Grands Vins de France. Inscription dès maintenant sur planète-endurance.com. Un événement à vivre prochainement sur France Bleu Vaucluse, partenaire des plus grands événements sportifs.
Envie de fruits mûrs, envie de légumes savoureux et fraîchement cueillis près de chez vous.
Envie d'huile d'olive, fromage, miel, fleurs
et volailles élevées dans nos fermes.
Envie de produits cultivés et vendus directement par les agriculteurs.
De mars à octobre, les agriculteurs du Vaucluse, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et Bienvenue à la ferme, vous donnent rendez-vous
toutes les semaines sur les marchés du soir des producteurs dans 10 communes du département et sur les marchés à la ferme.
Programme complet sur chambre-agriculture84.fr.
Convivialité, qualité et fraîcheur des produits.
Venez savourer le Vaucluse. France Bleu.
Sera gourmand sur France Bleu Vaucluse.
Jusqu'à 11h20,
les toqués émincent la radio.
Alors, on parle aussi safran dans les toqués aujourd'hui avec l'invité choisi par Henri Capella, Olivier Reboul, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, le safran, pour nous, c'était essentiellement quelque chose d'exotique, mais ça, c'est fini, Henri Capella.
C'est fini, c'est une image que les gens ont. Il faut savoir que dans le Vaucluse, Il y a pas mal de producteurs de safran.
De plus en plus, on en parle.
Un très connu, c'est Aube Safran, vers le Mont Ventoux. Et c'est comme ça que j'ai découvert il y a quelques années maintenant Olivier, par pur hasard. Et il m'a montré sa production, il m'a montré le lieu où il travaillait, parce que les gens ne se rendent pas souvent compte qu'une petite fiole de safran, c'est un travail monstrueux en avant, pour un résultat sublime ensuite.
Il faut avoir un bon dos, c'est ça ?
Oui, il faut, faut être en forme quand même, oui.
Ouais, parce que quelle superficie de safran vous cultivez ?
Environ un hectare, mais voilà, la culture en fait occupe à peu près trois quarts, et puis on fait des rotations de parcelles.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu chez Olivier Reboul au point de, comme ça, de nous dire que c'est une belle rencontre ?
Bah, c'est d'abord son parcours. C'est drôle à dire, mais on a un peu le même parcours. On vient tous les deux dans une autre vie du monde de l'informatique, des grands groupes informatiques mondiaux. Et après pas mal d'années de travail, un certain ras-le-bol qui peut arriver à pas mal de cadres supérieurs. Oui. Et l'envie d'autre chose. Et l'envie d'autre chose, souvent, c'est revenir à des choses simples. Mais s'investir par pure passion. Et ça a été le cas d'Olivier.
Comment en êtes-vous venu au Safran ? Alors, de l'informatique au Safran, vous êtes dit un jour j'ai envie de travailler la terre, qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, un jour, voilà, ça faisait plusieurs années que je cherchais en fait une possibilité pour moi de me reconvertir dans un métier lié à la terre, à l'environnement, à l'écologie. Et cette idée de Safran, en fait, elle est venue parce qu'en fait, c'est une culture dans laquelle on peut se lancer sans trop de moyens, pas besoin d'avoir beaucoup de terrain, pas besoin d'avoir beaucoup d'outils, d'installations. Donc des choses trop lourdes, et donc pour des gens qui n'ont pas qui ne sont pas d'une famille d'agriculteurs avec voilà des choses qui sont déjà toutes prêtes,
des terres, du matériel,
voilà, donc ça permet de se lancer assez facilement.
Et ce que vous faites depuis combien de temps maintenant?
Depuis 6 ans maintenant.
Voilà, et vous êtes venu avec plusieurs produits, hein, des petites fioles avec ces fameux pistils, enfin, je peux
voilà, les petites fioles avec... Ouais. Nous ne présentons le safran qu'en pistil, enfin, ouais. On appelle ça en filament, pour éviter, je dirais, de confondre un petit peu les produits qui viennent de l'étranger, qui sont souvent en poudre. Donc nous,
on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans.
On peut mettre un peu tout ce qu'on veut.
Hein, là, je dis des choses... Bon,
voilà.
D'accord. Donc ça coûte combien alors ? C'est ça, parce qu'on sait que c'est très cher, le safran.
Un gramme de safran français, ça coûte environ 30 euros le gramme. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on en fait, Nadia Samut, d'un filament de safran alors ?
Ben, on peut en faire
pour nous tous qui écoutez là, hein, pour tous ceux qui écoutent la radio en ce moment.
On peut en faire plein de choses. Ma mère l'utilise beaucoup dans sa cuisine d'ailleurs. Et vous viendrez nous rencontrer du coup.
Oui, bien envie sûr.
Je crois qu'elle m'en a déjà pris. Hein.
Oui, ouais,
hein,
déjà, c'est ça. Ouais. Ah, c'est chez bien, vous. C'est bien chez vous alors. Oui. Cette histoire. Bon, on a un lien alors.
Alors que feriez-vous, Nadia Samut?
Peut-être une rouille où on va commencer à une rouille à la pomme de terre peut-être.
Ouais. C'est un classique, ça, mais rappelez-nous un peu comment ça se fait.
Non, donc on va mettre nos pommes de terre à bouillir ou au four d'ailleurs, et puis on va les garder justement assez tendres pour les écraser et monter avec notre huile comme une mayonnaise un petit peu, avec nos jaunes d'œufs, et puis on va rajouter un peu de safran, et puis ça va prendre la couleur. On rajoutera un tout petit peu de paprika quand même pour que et du piment d'Espelette.
Ah aussi, d'accord. Hein, parce qu'on nous dit qu'on parle trop souvent du piment d'Espelette chez nous.
Ah bon, pardon, alors...
Ah non, mais bon, vous êtes pour rien.
Je veux pas que ce soit trop fort, moi. Non, mais voilà, on peut faire ça comme ça.
Mais Olivier...
Tantant, je l'ai fait au Japon, moi.
Ouais, non, mais vous, vous êtes un cas à part, on a bien compris. Hein. Vous êtes ouvert sur tous les horizons, vous voyagez, vous imaginez, vous associez, c'est tout ce qui fait le charme de ce que vous faites. Et d'ailleurs, on parlera de votre école qui peut intéresser pas mal de gens. Hein. Mais Olivier, justement, alors quand on vient chez vous s'offrir du safran, c'est qu'on sait déjà ce qu'on va en faire, on connaît déjà un peu le produit, on peut découvrir, vous pouvez nous donner des idées.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai un site internet sur lequel je présente un certain nombre de recettes. Et puis, donc, ces recettes, ça peut être risotto milanaise ou effectivement le safran utilisé dans la paella, dans les sauces safranées qui se marient très bien aussi avec tous les produits de la mer, les coquilles Saint-Jacques, les moules. C'est un délice, quoi, à chaque fois de manger ces produits safranés. Et on peut les utiliser aussi dans le sucré. Et ça, les gens connaissent un petit peu moins, mais c'est très bon aussi.
D'ailleurs, ouais, des meringues.
Avec des meringues, des meringues safranées.
On va les goûter.
On va les goûter, j'espère.
On va les goûter, ouais. Pendant une chanson, là, on aura le temps de mastiquer un peu, de goûter,
des glaces,
de faire plaisir.
Des glaces au safran, ouais, aussi, c'est super bon.
Ouais, ça donne envie, ça, la meringue, là.
Une crème glacée au safran aussi, c'est excellent. Ouais, voilà, j'ai un copain pâtissier qui m'avait fait un test un jour de crème glacée au safran, c'était vraiment excellent.
Une crème glacée au safran, on peut l'associer à quoi, Nadia ?
on peut l'associer à peut-être un petit une tuile à la farine de riz et travailler avec un jus de d'agrumes, orange et citron, et justement avec un tout petit peu de safran aussi peut-être par-dessus, mais pour pas trop masquer le goût. Et on va arriver avec une tuile qui ressemble à celle des cannolis qu'on fait, des cannolis de brousse qu'on peut faire en Sicile, qui sont des desserts tout simplement. Vous allez prendre la tuile et juste l'arrondir sur un cylindre et avoir ça, c'est délicieux.
Bon, avec voilà. Vous, concrètement, Nadia, dans quelques instants, on parlera de votre farine de riz d'ici.
Avec plaisir.
Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui avec les produits de saison, chez soi, à la maison, quand on n'est pas un grand chef et qu'on a envie de se faire du bien?
Je pense que pour ceux qui mangent sans gluten et puis pour les autres, je vais leur faire la recette qu'on attend toujours, les pâtes fraîches peut-être.
On verra ça avec vous dans quelques instants alors.
Les Toqués, 04 90 14 04 04.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. D'être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Il serait mort du genre d'honneur quelque note. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout.
Gall, il jouait du piano debout. Nous, on a quelqu'un qui joue de l'orgue à farine. Oui, oui, c'est Nadia Samut.
Jusqu'à 11h20, on cuisine ensemble avec les toqués de France Bleu Vaucluse.
Voilà, Henri Capella, qui est conseiller auprès des professionnels de la cuisine, critique gastronomique, a choisi de venir avec Nadia Samut, la fille de Madame Samut de La Fenière, hein, qu'on connaît bien, à Lourmarin. Alors, dites-moi, vous êtes venu avec ce qu'on appelle donc un orgue à farine. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs farines différentes ou ce n'est que de la farine de riz
Il y a plusieurs farines différentes, là il y en a environ 20. Et je suis passionnée par cette recherche justement sur les farines, puisqu'il fallait que je reconstitue la mienne, n'utilisant pas de gluten et donc n'utilisant pas la farine de blé. Donc,
qu'y a-t-il là, outre la farine de riz?
Alors, j'ai de la farine d'amarante, j'ai de la farine de quinoa, j'ai de la farine de châtaigne, de la poudre de baobab.
La poudre de baobab
J'ai plein de choses. Alors, parce que chacune ont leurs propriétés, leur goût et leur intérêt et utilisation dans mes recettes.
Alors, mais ça, c'est parce que vous voyagez, vous avez cette orgue avec toutes ces saveurs, mais est-ce que ce sont des choses comme la farine de baobab, vous nous direz qu'elle est son intérêt d'ailleurs, ce sont des choses qu'on trouve ici quelque part chez des magasins spécialisés?
Alors, il y a beaucoup de choses que je trouve ici, il y a beaucoup de choses que je fais moi-même. Je les écrase ou je déshydrate mes légumes ou mes fruits pour en faire des farines et pour pouvoir les utiliser dans mes recettes, puisque j'explore pour les autres. Donc, c'est voilà l'idée. Mais effectivement, par exemple, la farine de riz, effectivement, on l'écrase ici, en Camargue, donc avec un riziculteur qui s'appelle Bernard Pujol et qui vaut le détour. Parce que Bernard a créé le canard des rizières, où il a des canards qui mangent les mauvaises herbes dans ses rizières. Il n'y a pas d'intrants dans les sols, donc on est sur une biodynamie totale. Et on est surtout avec un passionné et chercheur aussi, quelque part. Donc c'est très intéressant pour moi d'utiliser son riz pour en faire une farine. Et ce que je fais surtout dans cette cuisine, c'est qu'au-delà simplement d'utiliser la farine de riz comme ça, j'utilise des terroirs. Et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant pour les chefs que je forme ou avec lesquels je travaille.
Donc ça veut dire qu'il y a quelques subtilités au niveau du goût vraiment, ou c'est l'envie juste de faire travailler des gens d'ici?
Non, il y a vraiment une subtilité au niveau des goûts, bien entendu. Par exemple, un pois chiche, là je travaillais sur un pois chiche du Luberon dans une certaine parcelle. Bizarrement, mon pois chiche avait le goût du cumin. C'était simplement par les floraisons autour, apparemment, et on avait ce goût-là. Après, j'utilise beaucoup de sortes,
Nadia, concrètement, là, pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on est là pour ça, la farine de riz, là, qu'est-ce qu'on en fait?
On peut faire beaucoup de choses avec, mais là, j'avais envie de vous proposer de faire des pâtes, parce que je me suis dit, des bonnes pâtes au pistou avec quelques pignons et tout, ça peut le faire, non? Et
tout à fait la région.
On prend sa farine de riz. Si vous ne trouvez pas celle de Bernard Pujol, parce que je suis la seule à pouvoir l'écraser, vous allez dans votre petit magasin, entre guillemets, bio, pour chercher de la farine de riz.
Entre guillemets, bio, ça veut dire quoi?
Parce que c'est les magasins bio qui vendent ces farines-là, alors que tout le monde pourrait en vendre, finalement. Ce n'est pas forcément...
On commence à en trouver ailleurs, maintenant.
Ce serait génial pour tous. Donc on prend de la farine de riz, en fait on va partir sur les mêmes proportions qu'une pâte à pâte traditionnelle, 100 grammes, 100 grammes de farine pour un œuf, entre guillemets, puis on met l'eau et on va voir comment on va travailler sa pâte. Moi qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord un mélange de farine, donc je travaille ma farine de riz, là je vais en mettre 40 grammes, je vais utiliser de la farine de quinoa, parce que j'aime bien ce goût-là et je trouve que dans mes pâtes, ça apporte un petit côté encore un peu minéral et c'est très intéressant sur le goût. Ça peut avoir un goût un peu torréfié et terreux. Donc j'utilise 50 grammes de farine de quinoa et je vais utiliser quelque chose qui va remplacer complètement mon œuf, parce que je fais des pâtes aussi sans œufs. Ça s'appelle le psyllium. Le psyllium, c'est une extraction végétale qu'on va utiliser et qui apporte un mucilage. Est-ce que vous savez ce qu'est un mucilage?
Non, pas du tout.
Le mucilage, c'est une forme de colle un petit peu, mais une colle végétale. Quelque chose qui va lier les éléments entre eux.
Ce qui est la difficulté dans le sans gluten, en fait.
S'il y a une difficulté, puisqu'il n'y en a plus maintenant.
vous le savez, mais nous, on n'est pas au courant. Pas toujours.
Venez à l'Institut Cuisine Libre. Donc, je vais mettre 6 grammes de psyllium, tout simplement, et je vais tout bien mélanger ensemble. Ensuite, je vais rajouter la partie eau. Je vais rajouter un peu d'eau et je vais regarder, en fait, parce que ça dépend quand même de mon hydratation et de l'humidité extérieure, je vais commencer à former ma pâte et former une boule, tout simplement. Je vais la passer au rouleau et ensuite, dans ma machine à pâte, évidemment, je vais la laminer et puis ensuite, je vais faire des tagliatelles. Et moi, ce que j'adore, c'est faire donc mon pesto. Et comme je mange également sans lactose, j'ai créé un pesto végétal avec un goût de parmesan qui est fait par la fermentation du riz, en fait, sur des paillettes de riz.
C'est plus cher que parmesan, en plus.
Peut-être pas, parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre, ouais. Mais en tout cas, ça a un goût vraiment délicieux. Et je vais vous dire un truc, parce que mon père, je le fais, c'est mon testeur, je lui dis jamais ce que je mets dedans, mais pour le coup, il a été bluffé par mon histoire de paillettes de riz.
Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc on voit que là, vous nous ouvrez des horizons encore. Hein. C'est pas d'ailleurs, on peut les parfumer avec le safran d'Olivier Reboul.
Mais complètement. Mmh, à partir pas, sûr, sur ouais. un autre goût que le pesto, et puis on va partir effectivement sur du safran, de l'huile d'olive. Peut-être que quelques tomates confites, juste...
Ah oh oui, ça irait très bien, je pense, voilà. Tout à fait, avec un peu d'ail aussi.
Exactement, des pétales d'ail.
Oui.
Pas que la simplicité, quoi.
C'est... Alors vous avez votre orgue à farine, hein, qui est assez impressionnant, quand on ne connaît pas du tout, mais tout ça va venir avec le temps grâce à des gens comme vous, hein, des jeunes qui innovent. Mais vous, vous êtes venu aussi avec quelques flacons, alors qu'est-ce que vous nous avez amené là?
Ben, Olivier Reboul. Ce sont des produits dérivés hein, que l'on fabrique, parce que bon, bien sûr, on a le safran pur que l'on vend aux particuliers ou aux professionnels, mais aussi on essaye de développer des produits dérivés pour faire découvrir d'une autre manière un petit peu le safran, aussi bien dans le salé que dans le sucré. Et là, par exemple, j'ai un sirop de safran. Donc en fait, c'est une infusion de safran que l'on fait ensuite en sirop, qu'on utilise de différentes façons, par exemple directement sur un plat, sur un fromage de chèvre, un petit filet sur un fromage de chèvre ou un petit filet sur un foie gras, c'est excellent, directement. Sur une salade de fruits, en ce moment, ici en Provence, on a des très bons fruits, on fait une salade de fruits fraîche, on rajoute un petit filet de sirop de safran dessus, c'est un exhausteur de goût des fruits, et ça vient en fait relever en fait, tout le goût des fruits, c'est excellent.
Ça coûte combien alors?
Alors là, un flacon de sirop de 200 ml, ça coûte 6 euros.
Ah oui, donc c'est intéressant hein, au niveau gustatif.
Oui, tout à fait. Et ça parfume immédiatement et facilement.
Aussi.
En pâtisserie directement au vide dans les préparations des entremets.
Mm-hmm. Et d'autres flacons là?
L'autre flacon, c'est une huile cette fois-ci, une huile de tournesol au safran, c'est-à-dire qu'on fait macérer en fait les filaments de safran dans l'huile et ça lui donne un caractère, une typicité particulière que l'on va mettre dans du riz ou dans des différents féculents ou même directement dans une salade. Alors c'est un goût un peu nouveau, mais ça mérite d'être exploré et je sais que Rennes Samut une fois. On avait pris, et puis c'est des choses qui méritent, à mon avis, d'être explorées par différents chefs pour voir un peu, parce que ces goûts nouveaux sont parfois difficiles à appréhender, mais il faut c'est sûr qu'avec l'association des chefs gastronomiques, on peut développer des bonnes choses.
Voilà, on reste pas dans la cuisine purement traditionnelle de Provence, qu'on adore hein, tous, évidemment, mais on peut encore innover avec des produits naturels, en plus, sans passer forcément, enfin on passe par la chimie, par les effets chimiques, mais avec des produits naturels, Nadia Samut, hein, c'est ce que vous faites.
Exactement, mais je pense qu'on reste quand même dans la cuisine totalement traditionnelle, d'abord parce qu'on utilise des produits qu'on n'a peut-être pas utilisés de la même façon, moi j'utilise beaucoup, par exemple je fais une focaccia chez nous, qui est à l'auberge Lafenière.
C'est la farine de pois chiche, ça.
Je travaille sur de la farine de pois chiche, la soca est à la farine de pois chiche, mais moi je travaille la focaccia, qui est le pain à l'huile d'olive italien traditionnel. Et en fait, on l'a fait avec de la farine de pois chiche et de la farine de riz. Donc, en fait, c'est juste comprendre les assemblages des farines, voilà.
Alors, Henri Capella, vous qui vous intéressez à la gastronomie, mais vraiment de très près, hein, pas seulement à travers votre objectif, mais vous êtes quelqu'un qui aime ça, là, qui aime la cuisine, hein, qui aime la goûter et mettre en valeur les chefs. Il y a on a l'impression que c'est une pression qui est faite sur les chefs aujourd'hui, de toujours innover, de toujours surprendre. C'est une réalité ou pas? Ils se révoltent ou pas, les chefs?
Ben, ça serait bien que certains se révoltent plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est important dans les établissements, quel que soit l'établissement, c'est l'authenticité. On voit trop souvent, par le biais des réseaux Facebook, beaucoup de photos de chefs qui font ce que j'appelle, moi, une cuisine de peintre. Ce qui est important quand on a une assiette, c'est de savoir ce qu'on mange. Donc, pour savoir ce qu'on mange, en plus de son titre, c'est le visuel. Donc c'est vrai que c'est de la simplicité. Simplicité, ça ne veut pas dire des choses basiques. Hein.
Jeter dans l'assiette comme ça.
Ce qui fait la cuisine, c'est le beau produit, le bon produit, mm-hmm. bien cuisiné. Un mauvais produit bien cuisiné ou un bon produit mal cuisiné peut avoir autant d'effets. Donc vraiment de l'authenticité, du goût. Et ce qui est bien aussi, c'est ce que fait Nadia à travers sa démarche, c'est d'identifier des gens. Olivier en fait partie, la personne qui est en Camargue en fait partie. Dans une assiette, c'est pas uniquement un bol de riz ou un morceau de viande, derrière il y a une personne. Et c'est super important d'identifier les gens.
Bien, à ce qu'on découvre sur votre site, hein, j'ai pas dit blog pour une fois.
Je retiens cet effort important.
Ouais, non mais bon, j'ai envie de faire plaisir à tous ceux qui viennent ici en studio partager avec nous. Parmi vos dernières découvertes, avant de nous séparer, Henri Capella, vous auriez envie de nous parler de qui ?
De deux personnes, pas très loin. Le bistrot du haut, parce que j'aime bien aussi cette notion de bistrot. Bah alors,
Manu, qui réalise l'émission, me dit qu'on a le temps. Donc on y revient dans quelques instants, donc on prend le temps de parler de vos bonnes adresses.
Les Toquets, 04 90 14 04 04.
Cet été, 6h25, France Bleu Vaucluse se mobilise, même pendant les vacances, pour vous aider à trouver un job. Offre d'emploi, formation, nouveautés et filières, notre réseau de partenaires se mobilise à nos côtés pour vous informer concrètement sur le marché de l'emploi en Vaucluse. À réécouter sur francebleu.fr.
Salut, c'est les Chevaliers du Fiel.
Eh oui, c'est l'été, le meilleur moment de l'année.
Cet été, on le passe avec vous, nous les Chevaliers du Fiel, avec nos chéris, nos auditeurs de France Bleu.
Mais bien sûr, on va retrouver tous nos personnages. C'est tous les jours, de 13h à 13h30.
Et ça s'appelle le Chevalier Show, à ne pas rater. Et je dis à tout à l'heure.
Brandt, Buoux, Blovac, Le Pontet. France Bleu, fier de vivre en Vaucluse.
Les Toquets, 04 90 14 04 04.
Alors, on profite de la curiosité et du goût naturel d'Henri Capella pour la cuisine et ceux qui la font, la cuisine, hein, pour que vous nous donniez donc ces deux fameuses adresses dont vous avez envie de nous parler là, en ce moment.
Hein. Oui. C'est deux petites adresses, mais c'est pas péjoratif dans le terme petit.
Non, mais on a besoin de ça pour nos budgets, hein, nous, ici.
Absolument, hein. c'est des cocons de gastronomie. La première, c'est une belle rencontre que j'avais faite au Jardin d'Essence chez Jacques et Laurent Pourcel. C'est un ancien chef qui a travaillé chez eux et qui s'est depuis installé à Vaison-la-Romaine. C'est Philippe Zemmour, au Bistrot du Haut. Ça porte bien son nom, il est sur le haut de Vaison-la-Romaine. C'est un bistrot, c'est une cuisine d'instinct, c'est une cuisine de marché. Et c'est un fou furieux de la cuisine, comme je les aime.
C'est le vieux Vaison là-haut, alors.
Oui,
d'accord.
Oui. C'est hyper facile à trouver. Il faut réserver parce que c'est pas grand. Et que, comme c'est bon, c'est pris d'assaut sans arrêt. Lui travaille avec sa femme, lui en cuisine et elle en salle. C'est une cuisine qui est merveilleuse.
Bon, on va l'inviter alors un de ces jours-là.
Ouais, on va faire venir.
C'est combien de menus là-bas, par exemple,
à midi, c'est une trentaine d'euros.
Ouais, ouais.
Donc c'est pas du tout prohibitif. Et c'est une cuisine généreuse, vraiment basée sur le produit.
C'est d'accord. Une cuisine, dans un cadre en plus très sympa.
Un cadre, hein, c'est une ancienne cave, donc voûte, c'est super bien décoré et on s'y sent super bien. Et quand on se sent bien, on n'a plus envie d'en partir. C'est le premier des symptômes.
Ouais, ce qui est un problème d'ailleurs pour eux, finalement.
Et la deuxième table.
On irait jusqu'à 16h, 17h, c'est ça ce que vous voulez dire.
Sans problème, pour le café, continuer sur le prochain sûr. Service, c'est okay. Pas un souci.
Et ensuite,
la deuxième table que j'ai redécouvert, parce qu'il y a eu plusieurs changements de propriétaires et à chaque fois, c'était des super chefs. C'est la table de Sorgue, à Sorgue.
Ah oui, il y a eu Davico, il y a eu plein de gens qui faisaient un bon travail.
Tout à fait.
Ouais, en plein cœur de Sorgue.
Ah oui, c'est une petite maison bourgeoise, avec un chef très discret, pas timide, mais il aime bien être dans sa cuisine. De temps en temps, il sort parce qu'il faut maintenant aller un petit peu voir les clients.
Ouais, dire bonjour.
C'est Jean-Paul Lecroix, c'est un chef que j'adore. Parce que ça fait des années qu'il voulait que je vienne le voir. Et où j'avais pas le temps, où j'avais pas envie de le voir, tout simplement. Non, je plaisante. Et j'y suis allé il y a peu de temps. J'ai passé deux jours avec lui en cuisine. C'est une personne qui a compris qu'avoir des grandes cartes, ça sert pas à grand-chose, ça coûte cher et c'est très compliqué à gérer. Lui, c'est quelqu'un qui fait travailler les producteurs locaux. Donc il travaille que de super produits, à l'époque de l'asperge verte, il va vous prendre des quantités d'asperges vertes, il va négocier des prix sur les morilles, sur un veau un peu particulier. Il propose un menu, et bien sûr, si les gens n'apprécient pas une viande, il va proposer un poisson, il va s'adapter, mais c'est une cuisine qui est carrément superbe, vraiment
et
superbe.
Et c'est bien pour Sorgue, hein, parce que...
Et bon, c'est très bien pour Sorgue, parce que Sorgue, à la base, ça ne fait pas forcément rêver, mais se déplacer pour aller chez Jean-Paul, c'est une superbe adresse.
On se gare bien, là, on se centre, on se parking, tout ça, ouais, ça peut être intéressant. vraiment un bon plan grâce à Henri Capella aujourd'hui. Henri Capella que l'on retrouve sur son site internet, hein, henricapellaconseil.free.fr.
Tout à fait.
D'accord. Et alors, vous, Nadia Samut, vous nous avez vraiment rendu curieux de ce que vous faites, hein, de vos explorations. Hein. Donc là, pour vous rencontrer, pour en savoir un peu plus sur ce que vous faites, et même pour participer à des ateliers, ben on va tout simplement sur votre site internet familial.
Exactement, aubergelafenière.com. Et puis on retrouve tout sur nos pages, etc. J'ai créé le site et j'avais envie de le faire un peu à la dimension de notre histoire, donc c'est assez marrant.
Il y a aussi puis, une présentation très moderne et tout.
Voilà, exactement. Site, hein. Ouais. Et puis ensuite, bah, vous venez entre Lourmarin et Cadenet. On est sur la commune de Cadenet, mais l'auberge La Fenière se trouve ici à la campagne. On vous attend avec plaisir. Et mes formations culinaires pour chef, boulanger, pâtissier se passent encore là-bas, évidemment. Mm-hmm. Et vous pouvez aller sur le site internet institut-cuisine-libre.fr.
Voilà. D'accord. Et puis il y a une belle photo de vous là, près des rizières de votre ami, j'imagine là. Non, ouais, c'est pas ça, avec votre drapeau.
Ah là, c'est en Camargue, effectivement. Donc là, je porte haut et fort ce drapeau.
Bon, et vous alors, Monsieur Reboul, votre site internet, quel est-il si on veut en savoir plus sur votre culture du safran, sur vos produits comme ces meringues que nous avons goûtées, hein, qui ont une saveur totalement originale hein, quand on a l'habitude des meringues classiques.
Oui, tout à fait. Alors on peut retrouver mon safran et toutes les informations sur le safran et sur la vie aussi de l'exploitation sur mon site terrater.com, TERRATAIR.com. Et on peut retrouver mon safran, bien sûr, aussi. On peut me contacter directement. Les coordonnées sont sur le site pour venir sur l'exploitation.
Sur les marchés aussi ou pas ?
Sur les marchés également. Par exemple, le mardi soir à Lourmarin, le marché des producteurs de Lourmarin, qui est un super marché. Et aussi, je voudrais citer aussi, sur la commune du Puy-Saint-Tréparade, le château Lacoste, qu'on connaît bien, et avec qui je travaille depuis longtemps. Et ils me font confiance. Et voilà, c'est un endroit aussi où on peut retrouver mon safran.
Bah, j'espère qu'on vous a rendu curieux justement de ces gens, de ce qu'ils font, et puis à vous d'être curieux, d'aller sur leur site internet.
Et ce soir, vous retrouverez des photos d'Olivier au marché de Lourmarin, parce que je serai présent, et je serai présent aussi le 24 septembre à l'auberge de La Fenière la fête de la gastronomie.
Ouais, on aura l'occasion d'en parler, hein, certainement, c'est sûr.
Merci.
Bon, merci à vous tous, hein, c'était très sympa de venir ici, vous nous avez rendu curieux, voilà, à vous de faire le travail derrière le poste. Hein. On sent bien que là, il y a des choses qui vont changer notre façon de cuisiner, tout en restant ancré sur la région, c'est ce que nous disait Nadia Samut dans cette émission. Avec vous tous les jours, les toqués de 9h50 à 10h40. Belle journée à vous. À suivre sur France Bleu Vaucluse, un été en Vaucluse avec là aussi un hôtel particulier qui mérite le détour parce qu'il y a des choses merveilleuses à voir. On va se faire plaisir là au niveau de l'œil avec l'hôtel particulier d'Agar à Cavaillon que j'ai visité à travers un reportage. Le jeu de la cigale aussi et le jeu du palais avec plein de cadeaux pour vous. Des sorties sur le Vaucluse, des sorties également du côté d'Arles avec la Fondation Vincent Van Gogh, on aura des cadeaux à vous offrir, des places de cinéma aussi, c'est le menu jusqu'à midi.